50, l'étape de l'adaptation à la nouvelle forme de vie à laquelle on va être confronté et auquel on peut des fois oublier certaines choses. Et puis l'étape créative, c'est-à-dire à un moment donné, eh bien, on va, on s'est arrêté là hier, un petit peu essayer de sortir la tête de l'eau et de voir qu'est-ce qu'on peut construire. Donc l'étape du choc, l'étape d'adaptation, qui est peut-être la plus longue, et l'étape créative, qui est peut-être la plus intéressante. Je vous ai fait. Alors, on va le reculer pour que je sois. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Voilà, avec ce petit schéma, je voulais montrer tous les paramètres qui sont à prendre un petit peu en considération dans la vie de la personne qui se retrouve seule après un divorce. Paramètres qui sont liés bien sûr à la société dans laquelle nous sommes et qui varieraient selon les endroits où nous serions. Alors je ne peux pas tout commenter, ce n'est pas le lieu ici, mais ça montre quand même l'évolution de la société n'est pas là, bien sûr, et d'autres choses aujourd'hui qu'il y a 50 ans en arrière comme cela. Bien des problèmes se posent différemment à la personne qui va vivre seule après un divorce, avant de reconstruire quelque chose. Un grand bordelais, non pas un cru, mais un grand bordelais, d'accord, disait, il faut, et vous le connaissez, c'est Jacques Ellul, il faut penser global et agir local. J'aime beaucoup cette formule, elle a été reprise par beaucoup de personnes après. Pensée globale, c'est-à-dire que ce qu'on va faire ensemble, moi je vais dire en général les choses, et puis chacun pour lui, dans son local personnel, va agir en fonction de ce qu'il a besoin, ou ce qu'il croit avoir besoin, ce qui est plus juste à dire des fois, voilà, comme cela. Alors, comment traverser cette étape de vie de... seul, et puis ça s'aggrave un peu plus tard de toute façon, de manière pas trop négative, de s'y retrouver quand même et de ne pas être dans un simplement un état de survie. Moi je pense que c'est dommage, après le temps de choc, l'étape du choc, c'est que l'étape d'adaptation et le temps jusqu'à ce qu'on reconstruit quelque chose, des fois ça peut prendre plusieurs années, très souvent d'ailleurs, on soit dans une espèce de survie, en attente, en suspension, en point de suspension comme cela. C'est un peu dommage. Alors voilà, je voulais juste vous rappeler quelques points de méthode. Et Nietzsche disait la force dans la méthode, vous vous rappelez de ça aussi, d'accord. Voilà, donc vous savez tous que nous avons besoin pour vivre tous les jours, et c'est variable pour chacun d'entre nous, d'une certaine dose de signes de reconnaissance. C'est toute la théorie sur les signes de reconnaissance que peut-être vous connaissez, je vais juste la reprendre rapidement avec vous. Donc les signes de reconnaissance, ce sont des vitamines affectives et relationnelles que nous avons besoin pour exister. Autrement dit, c'est tous les regards, petits, grands, forts, appuyés ou non appuyés, que nous recevons et qui nous permettent de vivre une journée tranquille. Nous sommes, je vais employer le mot fort, mais c'est juste, nous sommes drogués, il n'y a pas d'autre mot, à cette histoire de signe de reconnaissance. Nous avons besoin chaque jour de cette dose de reconnaissance des autres. La pire des punitions, vous le savez, c'est l'isolement. Quand on veut punir quelqu'un, on le met à l'isolement, déjà en prison, et quand il est passage en prison, comme si on pouvait être sage en prison, entre parenthèses, on le met en cellule d'isolement, quoi. Donc on a besoin que les autres nous donnent une certaine dose de reconnaissance. C'est évident que dans un couple, c'est plus facile puisque on s'est mis ensemble pour cela, et qu'on va se donner toutes sortes de signes de reconnaissance, affectifs, sexuels, relationnels, tout ce que vous voulez, social et autres. On a vu ça un petit peu hier. Quand je n'ai pas ma dose, que le soir, j'arrive à 6h le soir, 7h le soir, et qu'il me manque ma dose de signes de reconnaissance, je deviens hargneux, comme un drogué à qui manque sa drogue. Et je suis prêt à boire, comme un alcoolique qui manquerait la dose d'alcool, n'importe quoi qui me passerait sous la main. Hein, même l'eau de toilette, hein, elle lui a de l'alcool dedans. Quoi. Il paraît, moi je n'ai pas vu, hein, mais il paraît que c'est vrai ça. Hein. D'accord. Il n'est pas à boire n'importe quoi. Quand nous sommes mariés, et qu'arrive 6 heures du soir, et qu'il nous manque, je ne sais pas, hein, dans mes signes de reconnaissance, qu'il me manque 15, 20, 30% hein, de signes de reconnaissance, eh bien, je m'attends à ce que mon conjoint me les donne. Il est là pour ça. Hein. Il n'est pas tenté pour ça, je veux dire, je l'ai choisi pour ça. Et s'il ne me les donne pas, alors je dis qu'il ne sait pas communiquer, qu'il n'est pas gentil, bon. Hein, voilà. C'est plus facile, mais en même temps c'est piégeant, je ne vais pas parler des couples ici, hein. C'est un petit peu piégeant d'avoir quelqu'un de ne pas tenter pour donner un signe de reconnaissance parce qu'on a tendance à se rabattre sur lui et à ne pas en chercher ailleurs. Quand une solution de facilité, on va toujours dans la solution de facilité, vous avez remarqué, hein, que l'homme progresse que parce qu'il est contraint de progresser. Il n'a jamais progressé pour le plaisir de progresser. Hein, c'est parce qu'on le poussait derrière qu'il a progressé un petit peu. Et quand on devient solobataire, quand on se retrouve toute seule, on va se retrouver avec toute une perte hein, de zone de collecte de signes de reconnaissance. On organise notre vie, si on regarde bien les choses, hein, on organise notre vie en fonction des signes de reconnaissance qu'on a besoin. Alors on en reçoit à des endroits différents, et ils sont différents, vous en recevez au travail. Hein, quels sont les signes de reconnaissance du travail? Par exemple, c'est le salaire que vous recevez, hein. Ça, c'est un signe de reconnaissance. Hein. S'il n'y avait pas celui-là, je ne suis pas sûr que vous allez travailler demain. Quoi. D'accord ? Il y a le salaire, il y a les responsabilités que vous assumez, qui sont aussi une forme de signe de reconnaissance. Hein. Il y a, j'allais dire, le titre qu'on vous donne au travail. Hein. C'est sûr que si vous appelez technicien de surface, c'est mieux que balayeur de quartier, quoi, hein, comme signe de reconnaissance sur le bulletin de salaire. Hein. Il y a les relations que vous avez avec les collègues de travail qui sont des signes de reconnaissance aussi. Si les relations sont exécrables, bon, il n'y a pas beaucoup de signes de reconnaissance positifs dans cette relation-là. Donc, vous allez traîner un petit peu les pieds. Hein, voilà. Plus l'endroit où je suis est porteur de signes de reconnaissance positifs, mieux j'y serai et plus je m'y plairai et plus j'aurai envie d'y retourner. Et, au départ du couple, les signes de reconnaissance sont extrêmement forts. Hein, ils sont fusionnels, donc ils sont très forts. Et petit à petit, ils vont évoluer. Hein, et dans le divorce, c'est qu'ils s'arrêtent complètement. Quoi, quand ils ne deviennent pas négatifs. Hein, ce qui est encore autre chose. Alors, il reste les enfants. Mais les enfants ne peuvent pas donner les signes de reconnaissance que donnait le conjoint. Ils les donnaient avant, ils les donneront après. Mais si on demande aux enfants de donner les signes de reconnaissance que donnait le conjoint, on a des petits problèmes. Alors voilà, nous sommes des êtres sociaux hein, qui ont besoin de signes de reconnaissance et qui ont besoin chaque jour de notre dose de reconnaissance. On ne peut pas stocker des signes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à chaque jour, hein, quelqu'un dit ça suffit sa peine, ici. Chaque jour, voilà, hein, ça se passe très vite, c'est comme la manne dans le désert, hein, on ne peut pas la stocker, hein, même pour le dimanche. Bon, alors, c'est une attention, hein, on peut appeler ça des vitamines de vie, des calories psychologiques, appelez ça comme vous voulez. Alors, il y a différents types de signes de reconnaissance. Il y en a des riches, il y en a des pauvres, il y en a des ni riches ni pauvres. Il y en a des positifs, des négatifs. Hein. Je vais essayer de juste dire ça. Le secret, si secret il y a, hein, c'est que le solobataire, plus que celui qui vit en couple, doit faire attention à sa collecte de signes de reconnaissance. De façon à ne pas se trouver, hein, jamais, en manque de signes de reconnaissance. C'est parce que c'est là qu'il va commencer à déprimer. Hein, s'il se retrouve le vendredi soir, à la veille du week-end, sans avoir préparé une organisation de son temps qui lui permet de recevoir les signes de reconnaissance qu'il aura besoin pendant le week-end, il va commencer à déprimer, à cafarder du moins, pour son week-end. Il n'aura qu'un désir, c'est que vite, vite, hein, après le jeûne du week-end, hein, le lundi matin arrive, ou au travail, il va recevoir ses signes de reconnaissance. Et plus on va multiplier les zones, on va voir ça, plus on va multiplier les zones où nous pouvons recevoir des signes de reconnaissance, plus nous aurons des possibilités d'endroits où on peut recevoir, plus on traversera cette étape de solobataire hein, de manière positive et on ne sera pas dans la survie. Je me suis bien expliqué. Voilà. Donc, hein, Yaka, maintenant, hein, nous recevons les signes de reconnaissance, j'ai dit positif ou négatif. Ça dépend de l'image que nous avons de nous-mêmes. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, quand vous leur faites un compliment, qui est un signe de reconnaissance, hein, un compliment, il faut qu'ils le tournent en négatif pour le recevoir. Tellement l'image qu'ils ont d'eux n'est pas terrible, hein, et qu'ils ne peuvent pas entendre hein, quelque chose de bien sur eux. Alors ils vous l'enveloppent dans un papier gras, comme ça, hop, ça passe comme négatif. Je trouve que tu as, je ne sais pas, un beau costume. Hein, c'est vrai d'ailleurs. Voilà. Je trouve que c'est un beau costume. Alors, signe de connaissance, voilà, il a un beau costume, ben oui, hein, c'est bien, hein, ça lui fait plaisir, c'est bien. Négatif, il va le tordre en négatif parce qu'il ne peut pas le recevoir de manière positive. Hein. Vous voyez que j'ai pris les hommes hein, pour ne pas penser les femmes, vous avez compris. Hein, c'est un signe de reconnaissance. Hein. Alors, donc, négatif, je l'ai acheté parce qu'il ne peut pas le recevoir positif et il va le changer en négatif pour le recevoir. Il dira, je l'ai acheté en solde. Et hop, ça devient négatif pour lui. Et à ce moment-là, il peut le recevoir parce qu'il a une image négative. Nous ne pouvons pas recevoir des signes positifs, nous avons une image négative de nous. Et ce n'est pas des signes positifs qui vont nous donner une image positive de nous. Il ne faut pas inverser la machine hein, ici, hein, d'accord hein, bien sûr. Quoi. Alors, chez les chrétiens, il y en a un qui a très court signe de reconnaissance négatif. Positif, c'est un négatif. Vous faites quelque chose de bien, hein, on vient vous le dire, on dira, oh, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Alors celui-là, il est négatif absolu. C'est pas vous qui avez chanté là, c'est qui a chanté? Hein, moi j'ai pas vu le Seigneur chanter là. J'ai vu des gens qui jouent du violon, qui chantaient, tout cela quoi. Alors, comme je suis pas musicien, je ne saurais pas si c'est bien ou mal, je ne sais pas vous le dire. Hein, d'accord. Mais si je vous dis vous avez bien chanté, et que je sois un musicien pour vous le dire, et que vous me disiez non, c'est pas nous, c'est le Seigneur, ça veut dire que vous n'êtes pas apte à recevoir un signe positif. Hein, voilà, il y a la culpabilité, il y a beaucoup de choses. Pour la personne qui est divorcée, qui vit seule, hein, il y a mille raisons de ne pas recevoir à la vuillère des signes positifs. Hein, elle est dans une situation de choc, des fois un petit peu de déprime, dans son travail de deuil, dans le fait qu'il y a des paroles négatives qui la poursuivent, qu'elle a entendues, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour un signe négatif que nous recevons, il faut en recevoir quatre positifs pour équilibrer. Or, quand on arrive dans le divorce, on a reçu une avalanche souvent de signes négatifs. Il va falloir un petit peu récupérer tout ça. Hein. Voilà. Alors, dans les signes positifs, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Hein. Et pour qu'ils soient vraiment bons, un signe de reconnaissance, il faut qu'ils soient appropriés. Si je vois quelqu'un qui fait 1m45 et que je lui dis « tu es grand comme un géant », hein, il va dire « c'est fou de moi celui-là ». Hein. C'est pas un signe de reconnaissance positif. Hein. Voilà, bon. Approprié, qu'il ne soit pas. Hein, bien. Manipulatoire, vous avez compris. Hein. Il faut qu'il soit personnalisé. Plus le signe est personnalisé, plus il me fait du bien. Approprié, personnalisé. Il faut qu'il soit sincère. S'il est hein, un signe qui cherche un retour sur investissement, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas terrible non plus. Hein? Donc, sincère. Au moins ces trois choses. Approprié, personnalisé, sincère, et j'ajouterai dosé. Hein? Voilà, qu'on n'en rajoute pas. Hein? Trop. Bon. Hein? Bien. Encore faut-il que nous ayons la liberté de recevoir les signes de reconnaissance, j'ai dit, et les positifs. S'ils sont variés, c'est encore mieux. Hein? Voilà. Hein? S'ils sont variés, c'est encore mieux. Dans le système des signes de reconnaissance, il y a au moins trois verbes qui vont jouer un rôle important et que nous allons conjuguer tous très personnellement. Il y a le verbe recevoir, être capable de recevoir des signes de reconnaissance. Quand on a été blessé, quand on est blessé, on est très prudent avec les signes de reconnaissance qu'on va recevoir. On en a besoin. Hein? Et il y a tout un travail, je dirais, à peut-être accepter une certaine vulnérabilité. Recevoir un signe de reconnaissance, c'est se mettre dans une certaine disposition de vulnérabilité par rapport à l'autre. Quand je dis vulnérabilité, ça ne veut pas dire se mettre en situation de faiblesse, hein, ni de méfiance, mais peut-être simplement de vigilance. Hein, voilà. Si je suis enfermé dans mon blocus de souffrance, de solitude, je ne pourrai recevoir aucun signe de reconnaissance. Mais donc recevoir, c'est se mettre en situation d'une certaine fragilité qui permet de recevoir de l'autre quelque chose. Il faut des fois aussi oser demander des signes de reconnaissance. Ça, c'est pas facile. Hein. Oser demander des signes de reconnaissance. Dans un de ces films, Louis de Funès, dans peu importe le film, hein, dans la barre, c'est, hein, d'accord, il dit à son valet, il veut mon temps, hein, hein, dis-moi des choses bien, quoi, hein, d'accord, vous rappelez ce film, hein, d'accord, il dit, Monseigneur est fort, gros, là, il se regarde, il m'est roulé, hein, dans la glace, il voit bien que c'est pas vrai, quoi, hein, d'accord. Demandez des signes de reconnaissance, osez demander. Hein. Bien sûr que les signes doivent être appropriés, j'ai dit, hein, bien sûr. Il faut aussi peut-être apprendre à donner des signes de reconnaissance aussi. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous n'en donnez pas, vous n'en recevrez pas. Quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. D'accord ? Mais des fois, ça fait du bien d'en donner aux autres un petit peu aussi, des signes de reconnaissance. Ça nous fait du bien à nous de savoir donner des signes de reconnaissance. Les signes de reconnaissance n'ont pas tous la même valeur nutritive, si je peux dire ça comme ça. Il y a des signes de reconnaissance. Alors, je vais essayer de vous donner une grille de collecte de signes de reconnaissance. Voilà. La première étape, et bien sûr dans ma grille de collecte, plus on va loin dans la grille, plus les signes sont riches. Hein. Et c'est sûr qu'un signe à l'échelle 5 vaut 100 fois un signe à l'échelle 1. Hein, c'est comme pour les tremblements de terre, c'est exponentiel, c'est pas logique. Donc voilà, le premier signe de reconnaissance que je dois apprendre à donner, qui n'est pas très riche, mais si je ne me donne pas là, je ne peux pas aller plus loin. Et vous avez compris que chaque étape de mon échelle, ici, est indispensable, nécessaire, indispensable pour aller un peu plus loin. Vous ne pouvez pas sauter une étape, sinon ça ne marchera pas. Quoi. Donc le premier endroit où je me donne des signes de reconnaissance, positif, j'espère, parce que je peux me donner négatif tout à l'heure aussi, mais je vais laisser de côté les négatifs, c'est à moi-même. À moi-même. Comment vous parlez quand vous avez réussi quelque chose? Voilà. Oh. Comment vous parlez? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes content de vous? Vous mettez une médaille? D'accord? Ah ben là, t'es bon, t'étais bon. Là, ce coup-là, t'as été bon. Quoi, d'accord? Je suis étonné qu'il y a toujours des personnes qui ont de la peine à se donner des signes de reconnaissance positifs à eux-mêmes. Si je ne peux pas m'en donner à moi, je ne vais pas dire à chaque étape, je ne peux pas aller plus loin dans l'étape d'après. Ça commence par moi-même à moi. Si la connaissance personnelle est positive. Alors ça peut être simplement que je me fais plaisir, je m'achète une glace. Voilà. C'est la signe de reconnaissance que je me donne, si vous aimez les glaces, bien sûr. Voilà. Bon, deuxième type de signe de reconnaissance. Ça, on a besoin, mais ils ne sont pas très riches. On est d'accord dessus, mais on a besoin. Deuxième étape de signe de reconnaissance, qui est la première type de rencontre qu'on a avec l'autre. Et donc, on appelle ça les rituels. C'est-à-dire toutes les relations qui sont codées d'avance, où il n'y a aucune place à la créativité. Vous montez dans le bus, vous dites bonjour chauffeur de bus, vous le connaissez un petit peu, c'est un rituel, il ne va pas vous raconter sa vie. Et même si vous dites ça va, il dira oui ça va, mais ça ne va pas. Si vous disiez ça va pas, vous seriez bien embêté d'ailleurs. Vous n'avez pas que dire. Vous seriez plus à contre-pied un petit peu. Quoi. Donc c'est toute cette rencontre que nous faisons avec les autres qui nous disent que nous existons, mais qui ne vont pas plus loin que ça. Il y a un livre qui a été écrit, d'ailleurs qui parle des signes de reconnaissance, qui s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» Le nombre de gens qui ont dit bonjour, par exemple, c'est tous ces rituels de signes de reconnaissance. Ça fait toujours du bien de dire bonjour. Imaginez que demain, en arrivant au boulot, vous avez donné un signe de reconnaissance à vous-même, mais vous dites bonjour à personne. Vous allez vous asseoir à votre bureau directement comme ça, dire qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il lui prend aujourd'hui? Et en disant bonjour, vous n'allez pas sentir un saint tremblement qui va vous remplir de signes de reconnaissance. Mais ça veut dire que vous existez. Divorcé ou pas divorcé, vous existez. Voilà. Donc le rituel. Les rituels, il y a deux types de rituels. Pour aller vite, il y a les rituels de signes de reconnaissance qui sont des rituels d'unité, c'est ceux qui sont les plus riches dans le rituel, les unités, c'est-à-dire quand on a un repas en famille, si vous mangez en famille avec vos enfants, si vous allez en famille chez vous, c'est un rituel tous les dimanches, tous les mois, peu importe. Donc les rituels que nous produisons dans les rencontres, ça sont des signes de reconnaissance et donc qui sont liés au rituel d'unité. Et puis il y a les rituels de passage. Et là, ils sont plus difficiles pour ceux qui sont divorcés. Quand on allait chaque année fêter au restaurant, l'anniversaire, je ne sais pas quoi, de quelque chose du couple, il y a mille choses à fêter au restaurant. Quoi. Là, il faut trouver d'autres rituels. Sinon, vous allez, le jour du rituel de passage, de l'anniversaire de votre déclaration d'amour, vous allez vous retrouver en manque sérieux de signes de reconnaissance. Il faut prévoir un autre rituel, ainsi de bon, plus positif. Donc les rituels ne sont pas très riches. Ce que je dis là, vous savez, ça marche nos relations avec Dieu aussi. Je ne vais pas le prendre ici, mais ça marche pareil, d'accord voilà. Troisième type, troisième échelle de signes de reconnaissance, donc toujours en graduant, et là, ils sont un peu plus riches ceux-là, c'est ce qu'on va appeler les passe-temps. C'est-à-dire toutes les conversations que nous pouvons avoir qui sont générales, on parle de tout et de rien, de beaucoup de choses, hein, qui permettent de passer le temps, j'allais dire, hein, mais qui ne nous impliquent pas pour ce que nous sommes dans notre personne, mais qui tout simplement un de nos personnages. Vous savez que nous avons une personne, hein, là, notre être, et que nous sommes en scène dans beaucoup de personnages dans la vie, hein, et plus vous avez de personnages, plus vous êtes riche, hein, de capacité de recevoir des signes de reconnaissance, hein, et ne confondons pas les personnages que nous jouons, hein, et la personne que nous sommes. Hein. Là, je suis dans un personnage, et vous aussi d'ailleurs. Hein, d'accord ? Et nous rencontrons de personnage à personnage, mais derrière le personnage qui est là, il y a une personne. Hein. Donc, dans les passe-temps, c'est les personnages différents que nous sommes, hein, sur des scènes de théâtre différentes de la vie, qui sont en communication avec d'autres personnages sur d'autres scènes, enfin, même scènes qu'eux, et voilà. Donc c'est les signes de reconnaissance au niveau des personnages. Et ici, ils sont beaucoup plus riches, hein, bien sûr, que simplement bonjour. Hein. Quand vous parlez avec un collègue, avec une amie, un voisin, hein, de beaucoup de choses, de l'éducation des enfants, de ce que vous avez acheté, ce que vous avez envie, des vacances où vous allez aller, tout ça, c'est des signes de reconnaissance au niveau des personnages. Hein. Et bien sûr que là aussi, vous avez compris, il y a des positifs et des négatifs, on va laisser les négatifs, encore une fois, pour garder que les positifs, hein, ici. Ils sont plus riches. Hein. Donc, c'est vrai qu'un quart d'heure de parler à quelqu'un m'amène beaucoup plus de signes de reconnaissance que 18, 20 ou 30 rituels. Il me faudra, je ne sais pas combien de bonjour, hein, pour traverser la rue et dire bonjour, 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 hein, d'accord, peut-être, mais un quart d'heure de passe-temps, un quart d'heure de personnage, hein, en relation avec notre personnage, sera beaucoup plus riche, hein, que le rituel ou le retrait. Et puis, tout ça, c'est commun. Hein. Mais de temps en temps, et c'est là qu'il faut attention, peut-être, mieux construire, hein, de temps en temps, les gens avec qui, et ça, il faut sortir ses antennes, hein, hein, les gens avec qui nous sommes dans des passe-temps, dans des relations de personnage à personnage, de temps en temps, une fois par jour, plusieurs fois, peu importe, et puis ça peut varier, hein, ont le désir d'aller plus loin dans la communication, dans la relation, de passer de relation de être à être. Il y a comme un basculement qui se fait, hein, parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'on se sent en communication, presque en communion avec la personne, et on tout d'un coup on se rend compte qu'on n'est plus dans un passe-temps, qu'on est une relation un peu plus profonde, un peu plus personnelle. Hein. Je ne parle pas de relation amoureuse, si vous avez compris, hein, d'accord, hein, mais un peu plus personnelle ici, comme ça. Et là, alors, les signes de représentation deviennent beaucoup plus riches. Ils deviennent beaucoup plus riches. Et il y a quelque chose de magique qui se fait à ce moment-là, magique entre guillemets, hein, quand nous sommes dans ces relations plus personnelles, c'est qu'il y a un moment de communion qui s'établit à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que les signes de reconnaissance sont le plus riches. Ça ne dure pas longtemps, hein, mais c'est les plus riches. Je vais prendre un exemple, hein, ici à Bordeaux, on va le comprendre, et ailleurs aussi d'ailleurs peut-être, hein, le rugby. Hein, le rugby, vous savez qu'au rugby, plus qu'au football, je suis désolé pour Bordeaux hier, hein, mais Marseille a gagné. Hein? Bon, donc vous savez qu'au rugby, le... Vous ne suivez pas le football aussi, vous pouvez, oui. Donc, c'est pas si donc un reconnaissance positive, j'ai envoyé là. Hein? Bon, alors, le rugby, ce qui est le plus intéressant, c'est pas les demi-temps qu'on joue sur le terrain, hein? C'est la troisième mi-temps, voilà. Hein? Troisième mi-temps qui se joue au bar en face. Hein, au bistrot de l'autre côté, quoi. Ça, c'est la troisième mi-temps, c'est là, quoi, hein, tout se passe, hein. Bon, mais c'est parce qu'il y a eu les deux mi-temps sur le terrain que la troisième a de la valeur, hein. Il y a eu les rituels, il y a eu les passe-temps, il y a eu les échanges, ainsi de suite, bon, hein. Et puis, voilà, on a vécu quelque chose de communion sur le terrain, hein, on s'est bien rentré dedans. Bon, hein, de personnage, on est passé à la personne de la rencontre, de joueur, on est passé à des gens qui se sont rencontrés, qui se sont confrontés, et ainsi de suite. Alors, il y a un moment magique qui se termine par le pot, hein, qu'on va boire. Des fois, on essaie de le faire continuer un peu plus, hein, hein, que ce qu'il faudrait, mais bon, hein, comme ça. Voilà, mais moi, je ne suis pas un imbécile complet. Alors, j'ai compris que ce qui est intéressant, c'est là où, c'est, où sont les signes de reconnaissance majeurs, c'est au bistrot à partir de 16h30. Donc, je vais faire la sieste, hein. Et je vais me pointer au bistrot à 16h30, je vais pas aller sur le terrain mouiller la chemise. Qu'est-ce qui va se passer? Zéro. Je serai avec ceux qui sont là, hein, qui ont vécu le match, qui ont construit les chaînes des signes de reconnaissance, qui eux vont recevoir les signes de reconnaissance qu'ils ont préparés là, je dirais, hein, et moi je serai comme un spectateur, hein, et je n'aurai rien. Je vais sortir de là frustré, parce que je n'ai pas vécu l'évolution des signes de reconnaissance. Hein. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes relations avec les gens, je dois être prêt à organiser cette collecte des signes de reconnaissance. Il y a des gens avec qui je suis dans le retrait, et ils me font la tête, je leur fais la tête, on est très bien comme ça. Hein. Voilà, hein. Donc on se croise, hein, on se dit même pas bonjour, c'est bien. Hein. Bon. Et puis, il y en a d'autres à qui je suis dans les rituels. Hein. Le facteur, le chauffeur de bus, tout ce que vous voulez, hein, le pasteur qui vous voulez, bonjour, 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 bonjour. Hein. Voilà, ça fait du bien, ça s'arrête là comme ça. D'autres, je suis au niveau des passe-temps. Hein. Et d'autres, je suis au niveau de la communion. Hein. Au niveau de, hein, des activités communes, comme j'ai dit, de mise en, hein, en commun des personnes ici, quoi. L'important, c'est d'avoir toujours sur le grill, hein, sur le feu, comme vous voulez, quoi, hein, d'accord, hein, plusieurs possibilités. Si toutes mes relations sont au niveau 1, rituel, je vais me retrouver à un moment donné en manque de signe de reconnaissance. Et je vais faire quoi alors, hein? Alors je vais me plaindre, hein, je vais téléphoner, et puis on n'a pas envie de me recevoir, j'irai préparer. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser à l'avance, à l'organisation pratique, très pratique, plus on vit seul, hein, ou plutôt je dirais, moins on a de gens patentés, payés pour nous décider de reconnaissance, mais vous pouvez, hein, louer, hein, des gens pour nous décider de reconnaissance aussi, ça peut arriver, quoi. Je ne suis pas sûr que c'est les meilleurs, ceux-là, quoi. D'accord. Donc, plus on vit seul, plus on a besoin d'organiser, hein, sa collecte de signes de reconnaissance, pour ne jamais se trouver en manque de signes de reconnaissance. Parce que je vous dis franchement, si samedi soir, hein, ou ce soir, en rentrant, votre seul signe de reconnaissance, c'est votre plateau repas à la télévision, vous allez vivre votre soirée comme un pauvre, en manque. Et vous êtes comme un drogué qui manque. Hein? C'est dommage, parce que c'est qu'une question d'organisation. Hein? Qu'est-ce qu'il y a sur le grid pour ce soir, sur le feu pour ce soir, pour signe de reconnaissance? Un bon livre? Un coup de téléphone que vous pouvez passer à quelqu'un que vous connaissez bien, hein? Un film que vous pouvez aller voir avec une amie qui vous pouvez téléphoner, je ne sais pas, une sortie, une balade. Il faut qu'il y ait plusieurs possibilités, de façon qu'on ne soit jamais pris au dépourvu d'un manque de signe de reconnaissance. Et le piège, je dis, pour les couples, hein, ici, et rappelez-vous quand vous étiez en couple, c'était de demander, quand on rentre là ce soir, hein, de demander au couple, au conjoint, nous donner ce qu'on n'a pas reçu, qu'on n'a pas préparé, qu'on n'a pas construit. Et voilà. Il est entendu que les signes de reconnaissance les plus forts sont dans la sexualité. Hein, d'accord? C'est là qu'ils sont le plus forts, parce que c'est là que la relation est la plus intense. Hein. Ceci dit, toute relation sexuelle n'est pas porteuse de signes de reconnaissance positifs. Il y en a qui sont même porteuses de signes de reconnaissance négatifs. Même dans les couples, vous le savez très bien. Hein. Voilà. Comme un divorcé, hein, ou une divorcée, et je ne sais pas où il est dans cette vie-là, quoi, mais très souvent, il est dans une vie où c'est le... Hein, le on appelle ça le... Hein? Le curseur, on va dire, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, hein? Et l'encéphalogramme, j'allais dire, hein? Hein? Est peut-être assez droit, hein? D'accord? Donc il faut organiser ailleurs pour ne pas se sentir, hein, jamais dépassé par cette histoire. Voilà. Alors, je vous ai préparé un petit schéma pour être très pratique. Il est gros. Voilà. Hein? Et on va se poser une question ou deux, hein? Ici. C'est les domaines, alors c'est schématique, les domaines où nous allons collecter ces signes de reconnaissance. Vous pouvez en ajouter d'autres, hein, bien sûr, ça c'est juste pour vous donner l'idée. Hein, d'accord. Et on se pose la question, dans quelle, ça c'est une semaine de votre vie. Hein, donc vous enlevez le sommeil, hein, parce que vous avez un bon matelas, donc ça va, vous en recevez ces signes de reconnaissance. Hein, si vous avez un mauvais matelas, vous allez recevoir des signes négatifs, je vous le dis. Hein, donc le temps de votre semaine, c'est approximatif. Et vous dites, à quel endroit est-ce que je reçois mes signes de reconnaissance? Plus l'éventail est large, plus vous allez être dans un équilibre de vie. Si vous recevez vos signes de reconnaissance uniquement dans le sport, hein, ici, vous allez devenir, hein, j'allais dire quoi, dépendant de votre sport. Et devenant dépendant, vous allez recevoir des signes négatifs. Donc, si vous ne recevez que en regardant la télé, ou dans la lecture, c'est pareil. Plus vous multipliez les endroits où vous recevez une reconnaissance, plus vous allez avoir une vie qui va s'épanouir. Et l'idée, c'est de ne pas être en survie. Hein? hein, mais de pouvoir vivre. Alors, je ne dis pas que ça remplace tout, je dis que ça permet de vivre pas mal. Hein, voilà. Bon, alors par exemple, vous pouvez très bien avoir ici, hein, aller faire de la thalassothérapie, hein, comme signe de reconnaissance, parce que votre corps a besoin de reconnaissance, par exemple. Hein, je ne l'ai pas mis ici. Hein, vous pouvez très bien, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Hein, allez voir. Pensez, ça serait dramatique si nous recevions des signes de reconnaissance que là, hein, par exemple. Parce que quand on arriverait comme quelqu'un qui n'a pas bu depuis 3 semaines, hein, et qui serait à l'affût de les moindres signes de reconnaissance que l'Église lui donnerait, quoi. Et si l'Église ne lui donne pas, alors il part hein, dépité, frustré, hargneux. Hein? Oui.
Vie seule, tu dis vie seule, c'est quoi
vie seule, ben, quand tu vis tout seul. Hein? Quand tu vis tout seul le soir.
Il n'y a pas de signe
d'emploi. Eh bien, c'est à toi de les organiser, justement. Voilà. Et comme quelqu'un qui vit seul est souvent seul, hein? D'accord? Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Si, tu as compris, l'idée c'est que s'il ne trouve des signes de reconnaissance, pas dans son travail, parce qu'il s'y embête, il est mal payé et il est embête, d'accord, là il vit seul, il se retrouve dans la glace et il ne peut même pas se voir, hein, la télé, vu le programme, c'est pas terrible, hein, d'accord, le sport, il est fatigué, hein, les amis, ils viennent tourner le dos, et bien il va venir vous embêter. Franchement, ici. Quoi. Parce que si vous avez de l'amour, si vous êtes chrétien, il y a malheureusement, ça arrive. Donc, vous avez compris que c'est multiplier les endroits hein, en construisant toute cette histoire de ces reconnaissances. Ne restez jamais sans une palette de possibilités de recevoir des signes de reconnaissance comme cela. Ça n'empêchera pas de faire de nouvelles rencontres. Hein. Au contraire, ça vous évitera hein, d'être comme quelqu'un qui serait, comme tout à l'heure, hein, drogué et tellement manque de drogue. Qui passera le premier signe de reconnaissance, qui prendra le premier signe de reconnaissance qui passe. Ce qui est dramatique quand même. Et bien dommage. Hein? Il est bien dommage. Oui. Ouais. Oui, mais. Et quand on se noie, on dit chez moi, on s'accrocherait une barre de fer incandescente. Et vous avez des gens qui vivent seuls, qui n'ayant jamais organisé leur collecte de signes de reconnaissance, hein? Ils sont tellement dans une diète, hein, un désert de reconnaissance, qu'ils prennent n'importe quoi. Et, bon, c'est pas à nous de dire ne prends pas ça, ne prends pas ça, ne prends pas ça, parce que ils ont tellement soif qu'ils boiraient du sable. Hein. Vous savez ça, quand on a soif, on boirait du sable. Hein. Il paraît que quand on se perd dans le désert, je vous le dis ça, si vous allez vous perdre dans le désert un jour, hein, d'accord, il faut tout de suite vider sa batterie de la voiture. Hein. T'entends, quand tu vas dans le désert?
Mais si on est à pied, on n'a pas de batterie.
Ah oui, alors à pied, je ne sais pas si tu vas à pied dans le désert. Hein. Ouais. Pourquoi la batterie? Parce qu'il y a de l'acide. C'est bien une femme qui a posé la question. Là. Bon, hein, il y a de l'acide dedans. Hein. Et si quand tu as soif, tu boirais ce qu'il y a dans la batterie et tu vas te trouer les tripes. Donc il faut la vider tout de suite. Tu te rappelleras. Oui aussi, oui aussi.
La vidange.
Bon, ben alors oui, vide tout.
C'est bien pour ça que.
Alors, je n'ai pas dit que ça c'est la potion magique. Je n'y crois pas la potion magique. Il y a longtemps que j'y crois plus, hein. D'accord. Je dis simplement que ça permet de ne pas mourir de soif dans le désert et de surtout ne pas être ces gens qui sont tellement assoiffés qu'ils boiraient le sable tellement ils ont soif. Hein. Voilà. Et ça, c'est pas mal quand même. Et ça permet de tenir quand même pas mal de temps. Hein. Bien, ça c'était ma première partie. Deuxième partie, aujourd'hui, c'est nouer une nouvelle relation. Ça, c'est bien gentil, mais c'est temporaire. Ça va hein. Et ensuite, on verra peut-être hein, si on a le temps un peu, hein, famille recomposée. Hein. Ce que ça pose comme problème. Et les joies, bien sûr. Alors, prenez vos papiers, vos crayons maintenant. Hein. Notez. Et non, nouer une nouvelle relation. Je vais parler d'abord des arguments qu'on entend, puis je parlerai des freins, hein, et puis je parlerai comment reconstruire, si vous voulez, un petit peu. Hein, voilà. C'est très concret, hein, vous allez voir, c'est très concret, hein, au cas où vous ne soyez pas. Hein. Voilà les arguments qu'on entend très souvent, hein, des gens qui sont en situation de reconstruire quelque chose, et par peur, parce qu'il y a une peur, hein, derrière tout ça, hein, par peur, se donnent des raisons pour justifier leur non, j'allais dire, engagement, recherche. Voilà, hein. On entend trois arguments. Hein. Le premier, c'est je voudrais bien, mais il n'y a personne. Alors celui-là, hein, il est bon. Quoi, hein. Je voudrais bien, il n'y a personne. C'est possible qu'il n'y ait personne dans la porte à côté ou sur la chaise à côté de toi, hein, mais que je sache, dans l'humanité telle qu'elle est, hein, hein, il y a autant d'hommes que de femmes. Donc il y a un problème. Hein. Ils sont bien quelque part, les hommes. Hein. Ou ils se cachent, d'accord. Ou les femmes, elles se cachent. Alors c'est vrai, à cause du décalage d'âge, hein, du remariage, que l'échelle des valeurs, elle n'est pas de valeur, l'échelle d'âge, pardon, hein, d'accord, merci, l'échelle d'âge est un peu inversée, quoi, hein, d'accord. C'est-à-dire que nous trouvons, si je parle crûment, hein, sur le marché des jeunes de 22 ans et des femmes de 50 ans. Ben, évidemment, ça, ça pose problème, hein, d'accord, hein, hein, mais bon. Hein. Je voudrais bien, mais il n'y a personne. Il faut se donner les moyens, hein. Je vais vous dire, moi, très concret. Hein. Il y a une histoire dans la Bible, je vais vous la raconter, tiens. C'est l'histoire de Ruth. Hein. Ruth, une femme intelligente et belle, hein, qui veut se remarier. Hein. D'accord ? C'est pas des bonnes. Comment ?
J'ai dit, elle est bonne, c'est bon.
Bon, elle veut se marier, hein. D'accord ? Elle, elle a repéré, hein, bien sûr, quelqu'un qui avait beaucoup de signes de reconnaissance, c'est-à-dire plein de riches, hein, et qui pouvait faire l'affaire à peu près, quoi. D'accord ? Ça s'appelle Boaz, quoi. Hein. Et comme à l'époque, quand on était riche, on avait beaucoup de terres, hein, d'accord. Donc elle l'a repéré, hein, comme ça qu'un bon propriétaire terrien, elle savait que si elle mettait les pieds là, hein, elle était à la bouche jusqu'à sa retraite. Hein, d'accord. Donc, hein. Bon, donc elle l'a repéré. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit, oh Seigneur, tu vois, Boaz, je voudrais bien marier avec lui, alors fais qu'il passe sous ma fenêtre, comme ça je lui offrirai un verre d'eau, et comme ça peut-être, hein, il me regardera, et peut-être, hein, d'accord, Seigneur, s'il est pour moi, tu fais ça, quoi. Hein, d'accord. J'ai fait des fois des séminaires pour les agences matrimoniales. Hein, ça, matrimonial. Ça marche très bien, hein, entre parenthèses. Hein. J'ai raconté cette histoire, enfin, l'arrangeant un petit peu. Quoi, hein. Et le soir, vous allez voir après, hein, ils avaient tellement peur, les garçons, qu'ils ont fermé leur porte à clé. Les hommes. Bon, donc Ruth, elle veut se marier. Et elle voit le beau Boaz, hein, d'accord. Elle fait beau, je ne sais pas, elle est riche. Hein. Et elle le voit, et elle va glaner, elle va se balader, glaner, hein, elle va faire celle qui est sérieuse, économe, vous voyez, elle va, vous voyez, d'accord. Elle va glaner dans le champ de Boaz, quoi. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de jumelles, hein, je vous le dis tout de suite, hein, d'accord. Hein, et que... c'est enregistré, ça, c'est pas grave. Et que... allez, laissez courir votre imagination maintenant. Hein, hein, comment on se met quand on glane, hein. Bon, hein. Bien. Et le Boaz, il fait chaud. Hein. Et le Boaz, il est au soleil, et il voit passer, pas très loin, parce que je vous dis, il la voit. Hein. D'accord, elle ne passe pas à 500 mètres de chez lui, de son champ. Là, devant, elle passe, elle glane. Elle passe, elle rapace. Hein. D'accord, hein. En glanant, comme ça. Hein. Les Boaz, il la voit, il dit, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal comme ça, hein. Elle est pas mal comme ça, d'accord. Hein. Puis elle voit que Boaz la regarde pendant qu'elle glane. Et hop, je te tourne, et hop, je te tourne. Hein. D'accord, hein. C'est exactement ça. Hein. Je suis désolé, c'est ça. Hein. Et le soir vient, elle va chez elle, elle se change, tout ça, et quand la nuit tombe, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, hein, je vous dis c'est dans la Bible, hein, posez tout, hein, d'accord. Hein. C'est pour vous dire qu'il faut se mettre en situation, hein, voilà, hein, et pas attendre que ça tombe comme ça, le fruit mûr, hein, du ciel, ça ne viendra jamais. Hein. Il y en a qui sont morts de faim comme ça, attendre ça, je vous le dis franchement. Donc elle va voir Boaz le soir, hein, hein, alors qu'il est à moitié endormi, enfin on fait semblant du moins, hein, et elle se met dans son lit. Son lit, hein, c'est la couverture qui est dehors, hein, le sac de couchage. Hein, hein, d'accord. Et le boss, il pose un problème. Hein, vous imaginez, quoi. Une jeune femme comme ça près de lui, il sent des. Hein, hein, d'accord. D'un coup, il se pose des problèmes aussi de reconnaissance, le boss. Hein. Et quand elle voit que le boss, il commence à être bien chaud, là, bien mûr, hein, elle s'en va. Hein, elle s'en va, elle dit, si tu me veux maintenant, tu m'épouses. Hein. Et le lendemain, bon, il se réveille, il croit bien qu'il a fait un rêve, c'est une réalité, hein, et il fait le malin, quoi, comme tous les hommes, entre parenthèses, je vous le dis. Hein, hein, il fait le malin en disant oh, qui veut épouser cette pauvre femme? Si personne ne la veut, moi je me dévouerai. Quoi. Hein, il fait le malin. Quoi, voilà, hein, et puis, alors, bien sûr, tout le monde y a compris son cinéma, quoi, hein, il la lui laisse. Quoi, bon, et puis, ils se marient, et ils ont des enfants, des petits-enfants, et derrière tout ça, il y aura Jésus. un de leurs petits fiottes, hein. Voilà, ça sera Jésus quand même, c'est pas rien, d'accord, Ruth. Hein? Pourquoi j'en veux cette histoire? Pour dire que il s'agit pas des provocants, hein, de, vous avez compris, hein. Bon, mais trop souvent j'ai vu que les gens ne se mettent pas en situation de vulnérabilité sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre le premier qui passe, le premier bagarreau qui passe, hein, d'accord. Mais qu'au moins on se mette en situation comme cela. Bien, alors, je vous donne bien, mais à personne, peut-être qu'il faut se donner un petit peu les moyens. Hein? Un petit peu, quoi. Hein? Voilà. Vous savez, on... Ben oui, j'ose dire ça. On se dit quand même, je vais pas y faire le coup du manteau, le coup il fait froid, quoi. Hein? Comme je faisais quand j'avais 16 ans du lycée, quoi. Hein? On a perdu, à ce moment-là, une certaine naïveté, spontanéité, je ne sais pas quoi, hein, qu'on avait à 16-18 ans. On se dit quand même, à 50 ans, je ne vais pas faire la minette ou le garçon de, hein, de 18 ans. Quoi. Mais ça, l'amour, il n'y a pas d'âge. L'amour. Paul Tournier, vous connaissez peut-être, qui est mort à 85 ans, par là. Quoi. Paul Tournier était veuf et il s'est remarié, dehors 80 ans, tout comme ça, quoi. Et on lui a demandé pourquoi il se remarie à 80 ans, alors qu'il a déjà un pied près de la tombe, hein, d'accord, hein. Il a dit, pour la bonne raison qu'on se marie toujours, parce que je suis amoureux. Vous savez, tomber amoureux peut tomber amoureux à tous les âges. L'amour, le cœur ne vieillit pas. Le cœur ne vieillit pas. Vous pouvez tomber amoureux, follement amoureux, ou amoureuse, hein, à 18 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, il n'y a pas d'âge pour l'amour, pour le cœur. Il n'y a pas d'âge. Hein? Et on peut tomber amoureux pas qu'une fois. Hein? Le cœur est fait comme ça, la nature est fait comme ça. Hein? Voilà. Deuxième petit problème qu'on rencontre, hein, les arguments qu'on entend. Hein? D'accord, je veux bien mettre la situation, hein, de glaner. Hein? D'accord. Vous comprenez pourquoi les gars ils avaient fermé la porte le soir. Bon. Bon. Je veux bien mettre la situation de glaner un petit peu. Hein? D'accord. Mais je ne peux pas prendre n'importe qui quand même. Personne ne doit dire pas n'importe qui. Hein. Excusez-moi. Quoi. Vous savez, quand on reconstruit quelque chose, il y a au moins une chose qu'on sait. Hein. Quand on construit un premier couple, très souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. Hein. On ne sait pas trop. Quoi. Mais quand on reconstruit un couple, on sait ce qu'on ne veut plus. On le sait. Hein. On ne sait pas tout ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut plus. Et ça, c'est quand même un grand pas. Hein. C'est un grand pas. Voilà. En tout cas, des choses que dès que vous allez les voir se pointer, ça va se bloquer. Si vous avez eu un conjoint violent et que vous voyez quelqu'un qui, en conduisant, se met en colère, ça va être terminé la soirée, et même plus que la soirée. Hein? Voilà. On sait ce qu'on ne veut plus. C'est très important, ça. Voilà. Hein? Alors, n'importe qui, non. Hein? Mais une fois qu'on a éliminé ce qu'on ne veut plus, il faut quand même se laisser un petit peu l'amour nous surprendre. Et puis, troisième argument qu'on entend très souvent, c'est que c'est mon style de vie qui m'empêche de rencontrer quelqu'un. Je suis tellement pris, mon travail, mes enfants, ma profession, mes amis, je n'ai pas le temps, quoi. Bon, évidemment, hein, il y a des priorités dans la vie, hein, c'est vrai, quoi. C'est vrai. Alors, quels sont les freins à une nouvelle relation amoureuse, hein? Le premier, c'est l'orgueil blessé. On a dit hier qu'on ne sort pas toujours indemne d'une relation, hein, de couple après un divorce. C'est vrai que nous sommes un peu blessés par cette histoire, qu'il y a des mots qui continuent à nous poursuivre, hein, des situations, des images, ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est vrai. Hein. Mais ça se soigne, l'orgueil blessé, hein, d'accord. Il ne s'agit pas de marcher dessus et d'avancer comme si ce n'était pas là, mais on peut soigner cela, on peut donc faire un travail là-dessus. Deuxièmement, la timidité, quand même, hein, comme tout à l'heure, à mon âge. Hein, je ne vais pas jouer la minette. Bon. Hein. Troisièmement, le manque de confiance en soi. Si j'avais seulement 3 kilos de moins. Hein? Si j'avais seulement, hier je disais 10 ans de moins, hein? Vous rappelez ça, quoi. Le manque de confiance en soi. Hein? Alors, pour ne pas s'avouer, hein, qu'on a manque de confiance en soi, hein, et ce que je viens de dire, alors on va avoir un comportement des fois un peu bizarre. Hein? C'est-à-dire qu'on va ou choisir, hein, choisir, hein? Essayer de choisir quelqu'un trop haut par rapport à nous, quand je dis trop haut, c'est-à-dire au niveau de l'âge ou de ce que vous voulez, quoi, c'est-à-dire inatteignable, hein, ou alors quelqu'un de trop bas. Comme on se dit, voyez bien, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et je m'en sors bien avec ce mécanisme de défense-là. Hein. Donc en prenant ou trop haut ou trop bas, je suis sûr de ne pas trouver. Quatrième, je dis il y en a cinq points, quatrième frein, c'est le manque de volonté relationnelle. Hein, je reviens à ce que j'ai dit. Si j'attends, hein, ici, que la personne, hein, passe devant ma porte, qu'il s'assoie sur le même banc que moi dans mon église, hein, et la même confession de foi que moi, hein, à la virgule près, et prie comme moi, hein, et chante le même cantique que moi, hein, au même rythme que moi, ça va, ça suffit, hein. J'ai peur que, vous savez, des chrétiens, il y en a partout, des chrétiens. Hein. Il n'y en a pas que là, assis ou ailleurs. Hein. Ça ne manque pas, les chrétiens sur la terre. Hein. Hein, voilà, hein. Ouvrons un petit peu les yeux, si vous voulez. Bon. Alors, peut-être positif. Hein. Le cinquième. Ah oui, c'est vous, tu as raison. Hein. Hein, voilà. Hein. Donc, le manque de volonté relationnelle. Hein. Il y en a qui suivent ici. Hein. La peur, le cinquième c'est la peur, hein? La crainte, hein? De se tromper encore. On n'est jamais sûr de ne pas se tromper. Personne ne peut garantir à quelqu'un qu'il ne va pas se tromper. Vous ne savez pas, hein, comment va évoluer l'autre, hein, dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent. Personne ne le sait, d'accord? Et la plus belle marque de confiance, d'amour qu'on puisse avoir, c'est de faire ce pari-là sur l'autre. Une fois qu'on a quand même cadré un petit peu les choses, hein? Bien sûr, quoi. Bien sûr, quoi. Hein? Mais oui, il y a un risque. Aimer, c'est prendre un risque. Le risque d'être déçu. Hein? Le risque d'être blessé. Le risque d'être encore une fois. Et c'est vrai, quand on sonne une blessure, on n'a pas envie d'être encore une fois blessé. On n'a pas envie, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'amour sans qu'il y ait un risque à prendre. Hein? Minimum de risque. Même si on peut quand même un petit peu aller. Alors, là, je vais faire un petit cours maintenant de comment jouer les rutes. Ça vous va? J'ai dit que je serais concret, hein, cet après-midi. Hein, d'accord. Non, non. Hein.
Et, t'en auras pour les hommes aussi, non?
Oui, ne t'affole pas. Hein. Mais, Paul, je vais te dire une chose, hein, hein, c'est jamais les hommes qui choisissent. Toute l'intelligence des femmes depuis la nuit des temps, ça a été de faire croire que c'était l'homme qui choisissait. Et nous, on a toujours cru ça. Mais on est formidable. Hein. Mais c'est vrai. Alors, je parle pour, si on veut reconstruire une relation, hein, pour une relation. Premièrement, hein, avoir, c'est très concret, hein, avoir une proximité flottante. C'est pas beau ça? Notez, notez. Hein. C'est-à-dire, suffisamment proche pour rassurer, hein, et suffisamment distant pour ne pas emprisonner. Parce que si l'autre a l'impression que vous lui êtes dessus à la première rencontre, il ne viendra plus, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et si vous ne lui téléphonez pas quand même le lendemain, pour savoir comment il s'est passé, fini la soirée tranquillement, c'est pas bien non plus. Quoi. Donc une proximité flottante. On a oublié un petit peu ça, vous savez. Hein, à force de vivre 10 ans, 15 ans mariés, on oublie un peu ces choses-là. Quoi, hein, voilà, hein. Autrement dit, si tout de suite vous sautez, hein, dessus, j'ai peur, hein, ça se finit mal cette histoire. Hein, on tourne court. Voilà. Donc proximité flottante, suffisamment proche pour être rassurant ou rassurante, suffisamment distant pour donner le temps à l'autre de l'apprivoiser. Vous vous rappelez le petit prince? Bien. Hein. Pourquoi c'est marrant? Alors, deuxièmement, éviter toute inquisition, c'est-à-dire toute inquisition dans la vie passée de l'autre. On a besoin de savoir quand même s'il était en prison ou pas, hein, bien sûr. Quoi, hein, hein. On a besoin de savoir s'il était marié, s'il a des enfants, mais il y a une limite à cela. Il y a une limite. Il n'est pas utile de tout savoir sur tout de l'autre pour commencer une relation. Hein? Troisièmement, laisser de côté la politique de reproche concernant le passé de l'autre. Mais comment tu as pu vivre avec un mari aussi tordu que ça pendant 10 ans, quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais pauvre imbécile, hein? Comment tu n'as pas vu plus tôt qu'il était tendu, hein? Vous allez vous faire du passé de l'autre un adversaire, au lieu de vous en faire un allié, quoi. Moi, je trouve que tu as été formidable dans cette histoire, hein, de pouvoir traverser ce passé aussi difficile. Hein? Plutôt que de faire des reproches sur la façon, hein, dont l'autre a été en relation avec un autre comme ça. Je sais que ça peut être un petit peu valorisant pour celui qui vient et qui arrive comme ça un petit peu, quoi, hein, de savoir qu'il est mieux que celui qu'il y avait avant. Quoi. Mais ce n'est pas la bonne chose. Hein. Donc, ne pas se faire du passé de l'autre un adversaire, mais plutôt un allié. Autre point, hein, laisser à cette nouvelle relation le temps suffisant de la gestation. Le temps de la cour, c'est un temps formidable, hein, le temps de la cour. Il faut le laisser, il ne faut pas le bousculer, il faut le laisser le printemps venir. Hein. Ne concluez pas trop vite. Profitez de ce moment formidable, magique. Et dernier point, laissez-vous surprendre. Vous savez, l'amour n'arrive pas toujours là où on l'attend. Laissez-vous surprendre. Il y a des... Hein, c'est pas toujours les étoiles filantes qui sont le plus intéressant. Hein. Les flashs, ça brille 2 minutes, hein, même pas, quoi, 10 secondes un flash. Mais vous avez des trésors cachés, des fois. Il faut prendre le temps de les découvrir. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de trésors cachés non découverts. Hein. Et prendre le temps de voir, d'accord, de se laisser surprendre par des trésors cachés, un petit peu. On peut se laisser éblouir 5 minutes, mais le flash, ça passe vite. Alors, prenons le temps, peut-être, de découvrir ces trésors cachés, qui n'ont qu'une chose, c'est être découvert. Hein. C'était pratique, hein. Voilà. Alors, 5 minutes, peut-être encore, hein, vous avez des questions là-dessus, hein, moins facile, ce que je vais dire, c'est par rapport, donc il y a bien des chances quand on reconstruit un couple, hein, une famille, c'est qu'on ait affaire face à une situation qu'on n'avait pas prévue, qui sont les familles recomposées. Hein. Si vous arrivez à 40 ans, et reconstruire un couple, il y a des chances que le conjoint de la rencontrer ait des enfants, et que vous en ayez aussi. Quoi, hein. Il va falloir gérer ça. Quoi. Alors quelques petites, peut-être... Ça mériterait une conférence en soi tout seul, comme ça, hein, si vous voulez. Quoi. Si vous voulez quelques petites idées. Hein. D'abord, premièrement, je ne vais pas vous décevoir, mais il faut le savoir au départ, c'est que l'identité de la famille recomposée, je vais appeler ça comme ça, la famille recomposée, passe toujours par la reconnaissance et l'intégration de la pluralité et de la diversité des liens. Dans une famille nucléaire, le nucléaire, c'est le père, la mère et les enfants. Hein. Le lien est un lien de sang. Hein. Dans la famille recomposée, on va glisser du lien de sang au lien affectif. Le lien de sang et le lien affectif n'ont pas la même valeur. Je dirais que le lien de sang est un lien qui est prévu par la nature et par le Créateur. Hein. Donc, il y a une place pour chacun dans la relation à travers le lien de sang. Je ne parle pas des adoptions, si vous avez compris que c'est un lien de sang aussi. Hein, d'accord. Mais par exemple, hein, un beau-père, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, d'accord. Quelqu'un qui vit avec une femme dont les enfants ne sont pas les siens, mais que lui, ses enfants sont ailleurs. Là, la nature, la psychologie, tout simplement, quoi, hein, d'accord, quand je dis nature, la psychologie, n'a pas prévu de place psychologique au beau-père. Psychologiquement, le beau-père n'a pas de place. La mère a une place. Le père a une place, les enfants ont une place, mais il n'y a pas de place psychologique pour les beaux-pères. Donc, il va falloir jongler. Hein? Ce n'est pas en éliminant le père que le beau-père trouve sa place. Ce n'est pas en démolissant un qu'on construit l'autre. Donc, il va falloir que le beau-père trouve, par exemple, hein, ou la belle-mère, hein, trouve une place qu'il n'a pas naturellement. Il va falloir qu'il se fasse adopter comme beau-père, enfin comme mari de la mère. Hein, et ça dépend beaucoup ici, entre parenthèses, de l'attitude du conjoint par rapport aux enfants. Je dis plusieurs choses ici. D'abord, les enfants n'accepteront jamais le divorce de leurs parents, j'ai dit hier, ça, c'est clair. Hein, d'accord. Maintenant, ils peuvent accepter que vous reconstruisez un couple, mais ne leur demandez pas que le beau-père et la belle-mère deviennent le parent remplaçant. Hein, ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Hein. Même si vous me dites, mais moi, il appelle papa, il était jeune. Bon. Hein, il faudra autant de temps pour adopter le beau-père que l'âge de l'enfant au moment de la reconstruction du couple. C'est-à-dire que si l'enfant a 4 ans quand vous reconstruisez votre couple, il faudra 4 ans pour qu'il accepte. Si l'enfant a 30 ans, il faudra 30 ans. pas d'illusion là-dessus. Hein. Voilà. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont en guerre larvée tout le temps, mais ça veut dire que, bon, hein, hier je disais, dans les moments symboliques, hein, ça se représentera comme ça.
Jacques ?
Oui.
C'est valable dans les deux sens ?
Oui.
Donc, mon père,
c'est... Oui. Il n'y a pas de place pour la belle-mère. Alors imagine dans un couple recomposé, famille recomposée, que la belle-mère a quasiment l'âge de la fille aînée. Ça arrive, hein, à 7-8 ans près. D'accord ? Tu vois l'Oedipe. Hein ? Donc il faut de la patience, beaucoup d'amour, et beaucoup de patience pour le parent, hein, pour le beau-père, la belle-mère, hein, pour se mettre à un endroit que la nature n'a pas prévu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, vous avez compris ? Mais il faut le faire en sachant ce qu'on fait. On ne peut pas tout casser comme cela. Comment regarder alors ces enfants qui ne sont pas mes enfants et qui ne le seront jamais et pour qui je ne peux pas être et qui me le diront, qui n'est pas mon père. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Hein? Ou tu n'es pas ma mère. Hein? D'accord ? Alors comment les regarder ? Eh bien, le regard, c'est de dire ce sont les enfants, et ça change tout, hein, ce sont les enfants de la personne que j'aime. Hein? Et le conjoint qui introduit hein, un nouveau hein, beau-père ou belle-mère dans la famille doit dire aux enfants, je ne vous demande pas de l'aimer, mais je vous demande de le respecter. Voilà, ça c'est le minimum. Je vous demande, et si le parent hein, qui introduit donc, hein, le beau-père et la belle-mère dans la nouvelle famille, hein, recomposée, ça se passera bien. Mais il y aura des tirages au départ, hein, parce que hein, des conflits, tout ça. Bon, hein, je ne vous demande pas de l'aimer. Or, on aimerait hein, lui faire des cadeaux aux petits, se faire aimer, se faire accepter par l'amour, non. Hein. Parce que, pourquoi ça ? Parce que l'amour ne vient jamais avant le respect. Et ceux qui sont divorcés, ça va bien. C'est parce que vous avez voulu trop aimer avant de vous faire respecter que vous êtes arrivé là, souvent. Hein. Donc, le conjoint, vous le respectez. Je ne vous donne pas de l'aimer. Mais vous le respectez parce que c'est mon mari, c'est ma femme. Et on respecte ma femme, on respecte mon mari. Hein. Ça pose beaucoup de problèmes aussi, mais c'est ça, voilà. Hein. Donc, les rôles difficiles. Hein. Ça va dépendre, cette reconstruction, de beaucoup de choses. Par exemple, de la capacité des parents, des deux côtés, à s'entendre hein, un minimum sur l'avenir de l'enfant, alors qu'ils ne sont pas ensemble. Si l'enfant est déchiré, hein, je disais hier, joue hein, de chantage, hein, de marchandage entre les deux, c'est pas la meilleure chose pour l'enfant, comme ça. Hein, s'il joue de boîte aux lettres, des fois c'est l'enfant qui joue de boîte aux lettres entre les deux. Hein, tu diras à ton père ou ça. Hein, et si quand l'enfant rentre, il faudrait que l'enfant puisse aimer ses deux parents, même séparés, hein, sans avoir peur des rétorsions. Quoi. Si quand il rentre le mercredi, évidemment, le mercredi quand il va avec son père ne va pas l'amener à travailler. Quoi. Il va l'amener au cirque, il va l'amener au cinéma, il va l'amener au restaurant. Hein, et puis il rentrera à la maison le mercredi soir, hein, comme ça, et il reste le devoir à faire. Alors ça c'est gentil pour la maman, hein, qui elle ramasse l'enfant avec les devoirs. Quoi, hein. Bon, alors, ah ouais mais je veux être papa, parce que papa je m'amuse, tout ça. Bon, mais ton père te jeter un bon à rien, irresponsable, ça ne me donne pas qu'il t'ait amené au cinéma. Quoi, hein. Voilà. C'est pas facile pour le parent qui fait ça, il faut le savoir, hein, d'accord voilà. Hein. Et si alors le beau-père veut remplacer le père qui dit fais tes devoirs, il dira toi qui tu es, toi. Hein. Bien.
Excusez-moi, quand il y a justement des familles recomposées.
Oui.
Forcément, les familles recomposées, elles peuvent être duales. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, si tu veux, quand les enfants sont échangés,
oui.
Ils peuvent se trouver dans une situation inversée alternativement.
Oui. Oui, j'ai pas compris ta question, excuse-moi.
Voilà.
Oui.
Des enfants.
Oui.
Une famille recomposée.
Oui. Tu as des enfants sur le côté.
Donc, il y a deux. En fait, il y a deux familles.
Oui, il y a deux familles. Même il y en a trois en réalité.
Oui.
Hein oui.
Il y en a moins deux déjà.
Oui, déjà, mais il y en a trois. Quoi.
Et comment
oui.
Dans une situation, il y a un type de rapport, dans l'autre situation, il y a un autre type de rapport.
Oui, c'est possible. Oui. Oui, c'est pour possible. Et tout dépend de la façon dont les personnes ont géré cette séparation, tu vois. Voilà. S'il y en a un, comme je disais hier, qui ne pointe pas mettre un terme à la relation dans le couple, ce qu'on appelle légitime, vous rappelez, hein, d'accord, et continue de manière dysfonctionnelle à être en relation par les disputes qu'il a avec son conjoint, hein, ne c'est que pour embêter la nouvelle qui est là, quoi, hein, voilà, quoi. C'est pas la meilleure pour les enfants, hein, c'est sûr, ça. Alors, mais on compte sur l'intelligence des parents, nous, ici, hein, bien sûr, quoi. Bien sûr, quoi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir inventer des nouveaux comportements dans la famille. Parce que ce qui, naturellement, est des moments forts pour la famille, va devenir des moments fragiles de la famille. Je prends l'exemple de la fête de Noël. Noël, ça fait de la famille, ça fait de la famille.
Oui, mais
quand on est trois familles, dans quelle famille? D'accord? Alors, moi je veux bien que je prenne les enfants de toi, mes enfants à moi et ce qu'on a fait ensemble, hein? D'accord, on met tout ça ensemble, sauf que l'autre conjoint, c'est ses enfants à lui aussi des deux côtés. D'accord? Donc, hein? Bon. Et les cadeaux? Les cadeaux à Noël? Moi, hein? J'ai beaucoup d'argent, ce qui n'est pas vrai, hein? Bon, hein? Hein? D'accord? Et je vais offrir un cadeau à Noël, mais alors le big cadeau à mon gamin. Hein? Et comme mon ex s'est marié avec un ouvrier, hein? Pas grand-chose, excusez-moi, hein? D'accord, dans mon image, hein? Il n'y a pas beaucoup d'argent à donner, je veux que mon fils à Noël il ait le cadeau sous le sapin énorme. Vous voyez la mère, hein? Qui a un de ses enfants avec un beau cadeau, hein? Que le père a donné, et l'autre qui est né de la nouvelle union avec un petit cadeau de rien du tout. Formidable pour la mère, hein? Et pareil pour les vacances de Pâques, hein? Pareil au ski. Et pareil pour tout ce que vous voulez, les études, tout le reste. Hein? C'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut de la diplomatie et surtout faire le deuil. Hein? Là, il n'y a pas de solution. Faire le deuil de la famille idéale. Reconstruire une famille, c'est formidable. Hein? On connaît tous des familles qui marchent très bien. Hein? Mais à condition qu'on fasse le deuil de la famille idéale. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut trouver d'autres façons d'être ensemble. Hein. On va parler en temps partagé, et non pas en temps commun. En temps partagé, on va parler. Comment partager le temps? Eh bien, trois jours là, hein, voilà, temps partagé. Comment constituer? Voilà les questions qui vont se poser. Donc, au couple qui veut se reconstituer, hein, et qui veut qu'il y ait une famille de chaque côté, hein, comment concilier la vie amoureuse avec la vie et la responsabilité parentale de chacun de son côté. Quand on fréquente, hein, on fait garder ses enfants. Il y a toujours une copine pour le faire. Oui, mais quand on va être ensemble après, la copine n'a plus gardé les enfants. Donc le couple qui vivait une espèce de petit nuage d'amour, hein, rose, hein, pendant ces temps de fréquentation, hein, et ces premiers temps peut-être, un petit peu, va se retrouver après avec des enfants à la maison. Qui était, hein, que n'a pas un couple qui démarre dans un premier mariage. Hein. Donc, comment concilier la vie amoureuse, hein? Et très souvent, les reproches vont venir très vite. Hein? Tu t'occupes plus de tes enfants que de moi. Hein? Je ne vous fais pas tous les reproches que je peux faire sur les enfants de l'autre, comme ça. Hein? Bon. Comment préserver les liens familiaux malgré les ruptures et l'éloignement? Avec le père qui n'est plus là, hein, qu'il faut quand même garder, c'est le père des enfants, et il faut qu'il reste. Comment être beau-parent? Gardien de l'éducation, de la discipline, sans être responsable de l'éducation. Parce que moi, j'ai pas envie que mon gosse, il aille là, ou il fasse ça. Là, tu débrouilles, hein? Je m'en fiche si ton nouveau mari veut ça ou ça. Moi, je veux pas. Et c'est mon droit. Hein? Donc, comment refaire sa vie sans renoncer à son histoire? Sans renoncer aux traditions qui sont les nôtres. La famille recomposée pose la question de qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce que le lien familial? Dans la famille nucléaire, c'est facile à répondre. Hein? Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qui fait la surface de la famille, la géométrie de la famille? Qu'est-ce que le lien familial? Qu'est-ce que le lien familial a de spécifique par rapport à un autre lien? Qu'est-ce qui caractérise ce lien donc familial? Réponse, si vous me permettez, hein, à ces questions. La famille donc, hein, est là pour assurer la continuité historique de l'individu. Et ça, c'est poser une famille recomposée. Hein. Elle est là pour assurer la continuité historique de l'individu, lui donner des racines pour qu'il ait des ailes. Hein, c'est l'émission télévisée. Voilà. La famille et le lien familial sert à l'élaboration des grandes figures psychologiques qui permettent la construction de l'enfant. Et ces grandes figures sont le père et la mère. Voilà. Qui permettent un bon développement psychique de l'enfant. Vous avez compris que la famille recomposée type n'existe pas? Hein? On peut parler de famille nucléaire en disant les rôles de chacun et les fonctions de chacun. La famille recomposée, tout le temps à inventer. Et chacun doit l'inventer en se rappelant la fragilité de chacun qui sont là, en se rappelant que les liens qui sont là, hein, sont totalement différents, en évitant les conflits de loyauté, bien sûr, quoi, hein, et en évitant les bombes à retardement. Hein, on va exploser un peu plus tard, comme ça. Ça va, j'arrête là peut-être. Hein, c'est l'heure pour dire peut-être un mot. Hein, encore pour terminer. Ne jamais dire du mal du parent absent. Ne jamais demander à la femme de choisir entre ses parents, même pour les vacances. Voilà. Si on tient ces petites choses, ça risque de marcher. Mais c'est un défi. Hein. Et on est grand pour le prendre. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le prendre. Ceci dit, les chiffres montrent qu'on divorce beaucoup plus vite dans les couples recomposés que dans les premiers couples. C'est quand même assez bizarre. Hein. Alors qu'on sait ce qu'on ne veut pas, alors qu'on a une expérience, le taux de divorce est plus élevé dans un second mariage que dans un premier mariage. Et dans un premier mariage, le taux de divorce est de 1 sur 2. Vous savez ça. Comment ?
Il y a beaucoup plus de paramètres.
Voilà.
Est-ce que dans ce contexte-là que tu dis, c'est pas dû au fait que l'individu ne se remet pas en question facilement, même en étant en se remettant avec quelqu'un ?
Oui, est-ce que c'est parce que ce n'est pas,
est-ce que c'est pas
en partie question assez facilement avant de se remettre. C'est possible, hein, d'accord, oui, que c'est parce qu'on n'a pas fait un travail sur soi sérieux, quoi. Hein. Oui. Mais c'est possible aussi que parce que on n'a pas peut-être su un petit peu anticiper, tu vois, les différentes difficultés qu'on va avoir. Hein. Si je pars avec l'illusion de la famille idéale que je vais avoir le soir de Noël autour de la cheminée, hein, ça, il faut que j'arrête tout de suite. Hein, hein, voilà. Oui.
Ou est-ce que ça
oui.
Continue de...
Non. Voilà, j'aurais dû le dire au début, excuse-moi. Hein. D'accord. Aucun chiffre ne montre de manière significative que les enfants de parents divorcés, d'abord, réussissent moins à l'école, d'accord, et deuxièmement, réussissent moins leur vie de couple. Il n'y a pas de chiffre qui montre ça, d'accord. Donc, on ne peut pas partir de là pour dire, pour extrapoler. Quoi, hein. Voilà. Ça joue sur des décimales. Hein. Voilà. Oui. Non, justement, ils peuvent prendre le contre-pied et dire là où mes parents ont échoué, moi je vais réussir. Donc on ne va pas se culpabiliser là-dessus, il y a assez de choses à se culpabiliser sans comprendre celle-là. Quoi, hein. D'accord. Au niveau scolaire, chacun joue son rôle, hein, comme j'ai dit, hein, et au niveau de reconstruction de couple, voilà. Tu sais que les enfants, toujours d'ailleurs, ils pensent qu'ils vont mieux faire que les parents au niveau de couple. Et c'est très bien, c'est pour ça qu'il ne faut pas être parfait. Voilà. Hein. Comme ça, ça donne la chance, hein, eux, de dire, nous, on fera mieux que nos parents. Et je leur souhaite. Un chiffre que je n'ai pas donné, que j'ai là, hein, c'est que si pour un parent, le travail de deuil, hein, de la fin du couple, il faut compter un an et demi, je disais hier, à peu près, pour un enfant, il faut compter 10 ans. Pour le travail de deuil, hein. Le travail de deuil ne veut pas dire qu'il va accepter que les parents se séparent, hein, mais qu'il arrive à avoir ça sans souffrance, 10 ans. Or, en 10 ans, un enfant qui a 5 ans, par exemple, ou 10 ans, peu importe, hein, en 10 ans, il va passer l'adolescence, il va être adulte, il va se marier. Donc, très souvent, il n'a pas les 10 ans devant lui pour faire le deuil. Hein. C'est qu'il va avancer dans la vie sans avoir ses 10 ans devant lui, hein, pour faire ce deuil-là. Oui, il pense à ça aussi. Voilà. Jeune homme. C'est à toi que je parle. Le jeune homme qui est au fond, là. Je le réveille. Hein. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est le printemps, hein, il y a sûrement des champs à glaner. Laissez la vie vous saisir. Hein. Merci. Merci Jacques. Vraiment, ça a été un plaisir de le recevoir. Bien, toutes les choses ont une fin, ou presque. On a installé des tables d'or ben, pour une petite collation. Si vous voulez partager, bien, discuter, échanger autour d'une boisson fraîche, donc c'est avec plaisir que nous accueillons après. Je vous propose un dernier chant, chanté comme une prière. Voilà. Christelle va se mettre au fond. Vous connaissez Christelle, tu peux te lever ? Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Bonjour Christelle. Donc elle va se mettre au fond avec une feuille blanche. Alors ceux qui l'ont fait hier, donc vous avez la possibilité de recevoir des documents qui sont en relation avec ce qui a été dit hier et aujourd'hui. Donc pour cela, donc pour des raisons techniques et d'organisation, c'était pas évident de faire des photocopies et de les distribuer, parce que forcément il n'y en aurait peut-être pas eu assez pour tout le monde. Donc ce qui vous est proposé, c'est que vous laissiez, si vous voulez recevoir des documents qui sont liés au sujet de ce week-end, c'est de laisser votre mail. Voilà. Étant donné que c'est notre église qui organise, puisqu'on a annulé notre culte de cet après-midi, mais on fait le culte ici l'après-midi pour pouvoir recevoir Jacques. Donc si vous désirez laisser votre mail pour recevoir les documents, donc faites-le, surtout écrivez très lisiblement, parce que ceux qui ont laissé leur mail hier, j'ai quelques inquiétudes tant qu'à retranscrire la bonne adresse. C'est pas évident. Donc je vais ressortir la feuille, je vais la remettre là, celle d'hier avec tous les mails. Si vous reconnaissez votre mail, s'il vous plaît, écrivez en lettres bâton, quoi. Parce que le déchiffrage risque d'être compliqué. Voilà. Bien. Donc, deux choses très importantes. Laissez votre mail en toute liberté et tranquillité, parce que de toute façon, il ne sera pas, c'est nous qui le récupérons moi, au niveau de notre église, il ne sera pas utilisé à d'autres fins. Moi, je l'utiliserai uniquement pour que vous puissiez recevoir les documents si vous le souhaitez. Et d'une. Et de deux, si vous souhaitez simplement être informé d'une prochaine réunion de ce type, faites-le savoir clairement. Vous mettez à côté de votre mail oui ou non. Si c'est non, votre mail sera parti à la poubelle. Je n'utiliserai pas votre mail à d'autres fins, ne serait-ce que en dehors du fait de vous envoyer des documents. Est-ce que c'est clair ? Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de piège. Voilà, c'est important que ça soit dit. Bien. Et donc, on va chanter ce petit chant. Et comme c'est dimanche, c'est aussi le bon moment des offrandes. Voilà, parce que nous, comme on a depuis cet après-midi, on fait les offrandes. Donc voilà. Donc, Christelle va se charger de faire passer la corbeille pendant ce chant. Merci de votre accueil. Merci de votre venue. Pardon. Merci à Jacques. Normalement, c'est le contraire. Donc, voyez, c'est inconscient. En vous disant merci de votre accueil, je me fais des compliments moi-même. Oui. Voilà. Donc, c'est les offrandes, mais c'est aussi pour bénir le travail du ministère de Jacques, comme me l'a rappelé gentiment Yassine. Voilà. Donc, merci, que le Seigneur vous bénisse, et on va se séparer sur ces quelques paroles. Au milieu de nos
Seigneur, merci pour ce week-end que nous avons passé, Père. Tu connais chacun de nos cœurs. Et sur ces quelques paroles, Seigneur, nous allons nous quitter. Apprends-nous la compassion, Seigneur. Et c'est parce que tu es le spécialiste de la compassion. C'est parce que tu es le spécialiste du regard d'amour. Et Seigneur, apprends-nous à... Aide-nous, sois notre soutien pour que nous puissions déjà nous comprendre nous-mêmes. Avoir de la compassion sur nos propres vies pour que nous puissions aussi le reporter sur celui qui est celle qui est à côté de nous. Merci Seigneur, parce qu'au-delà de tout ce que nous avons entendu, Seigneur, eh bien, nous savons que tu es celui qui veut faire ta part, qui veut restaurer, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, que nous puissions aussi faire la nôtre. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ton œuvre d'amour. Amen. Voilà. Bon retour, partez pas trop vite, et puis merci.
C'est fini.